Vivre FM
podcast. 11h midi sur Vivre FM,
la vie des entreprises.
Annelise Farcoa.
Vous êtes à la recherche d'un emploi et vous ne savez pas comment vous y prendre, comment adopter la bonne posture, comment optimiser ses recherches en ligne ou encore échanger avec des consultants. Alors restez bien avec nous puisque je reçois Sébastien Bompard. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association À Compétences Égales et vous êtes avec nous ce matin à l'occasion de la semaine À Compétences Égales pour la diversité qui va se dérouler du 30 mai au 3 juin et qui fera une escale à Paris le 2 juin. Vous allez nous décrire les activités de l'association, nous détailler les actions qui vont être menées partout en France à partir du 30 mai. Merci à vous qui nous écoutez. Très belle journée à tous.
La vie des entreprises
jusqu'à midi sur Vivre FM.
Bonjour à tous et bienvenue dans la vie des entreprises. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et nous parlons ce matin de la semaine À Compétences Égales pour la diversité qui va se dérouler à partir du 30 mai dans toute la France. Sébastien Bompard, vous êtes le président de l'association À Compétences Égales. Alors avant de parler de la semaine pour la diversité, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'association que vous présidez depuis 2011 je crois
hein? Oui, l'association À Compétences Égales fête ses 10 ans aujourd'hui. Elle a été
aujourd'hui.
Cette année, pardon, mais enfin, cela dit, c'est à peu près cette période. Elle regroupe à l'origine des cabinets de recrutement qui ont souhaité se regrouper pour réfléchir ensemble à la diffusion de bonnes pratiques dans notre corporation en matière de recrutement sans discriminer. Et dans un deuxième temps, d'ailleurs, on a travaillé un peu plus sur le développement de la diversité dans le recrutement, dans l'accès à l'emploi au sein de nos cabinets, de nos sociétés de recrutement.
Alors concrètement, quelles sont les activités de l'association tout au long de l'année ?
On a d'abord un travail collectif interne de développement de ses compétences, de développement des produits, de formation de l'ensemble des consultants, de membres de l'association. Nous avons également de la sensibilisation auprès des entreprises elles-mêmes et nous avons des missions d'accompagnement des publics potentiellement discriminés pour les aider également à favoriser leur recherche d'emploi.
Alors au départ, donc l'association, vous l'avez dit, fête ses 10 ans cette année. Quels étaient les objectifs ? Parce que vous vous êtes rendu compte, vous, plusieurs cabinets de recrutement, comme vous le dites, qu'il y avait encore vraiment une discrimination, peut-être pas vraiment dite, et vous avez souhaité former les entreprises ? Former, informer, sensibiliser ?
Former, informer et se former nous aussi, d'abord. Je dirais que c'était à l'origine une démarche plutôt de protection. De la part des cabinets de recrutement où nous avons posé le problème, nous avons voulu lui rendre sa place sur la place publique et diffuser la volonté de cabinets de faire mieux, non pas que pour des sujets éthiques mais aussi pour des sujets de performance. Et je dirais que le grand message de l'association c'est recruter sans discriminer, c'est recruter mieux, c'est recruter de manière plus performante en se posant les bonnes questions et seulement les bonnes questions.
Alors cette question de la discrimination à l'embauche, on n'en parle pas trop, c'est-à-dire que quand on interroge les recruteurs, tout est beau, il n'y a aucune forme de discrimination et pourtant vous le vérifiez tous les jours, ça n'est pas encore parfait. Alors quelles sont les principales discriminations ? C'est essentiellement la couleur de la peau, l'âge ?
Alors,
le handicap ?
Vraisemblablement, l'âge qui est sans doute le plus répandu et le plus difficile à comprendre, puisque les recruteurs eux-mêmes l'assument socialement. Vous dites justement qu'on essaye de cacher les actes de discrimination. Aujourd'hui encore, malheureusement, bon nombre d'entreprises sélectionnent par l'âge et ne voient pas d'inconvénient à le faire et à l'afficher.
À l'afficher.
Donc il y a un vrai travail de pédagogie pour expliquer que quelqu'un qui aurait plus de 45-50 ans n'est pas quelqu'un de fini, qu'il a encore potentiellement de l'énergie, qu'il a encore des capacités d'adaptation, des envies de réussite, etc. etc.
Ah, vous me faites plaisir là. Super. mais il y a quoi comme autre discrimination ?
L'origine, vous parlez de la couleur de peau, oui, je dirais l'origine, qui peut aussi se manifester par l'adresse. Ça a été d'ailleurs l'un des derniers critères de discrimination qui a été intégré dans la loi.
Donc quand on habite Aubervilliers, on a moins de chances d'être embauché que quand on habite Paris 15e.
Absolument.
Ouais, d'accord. Et quoi d'autre ?
Vous avez parlé du handicap. Je mettrai le handicap est un point un petit peu controversé puisque ça a été aussi le sujet qui a fait part de la promotion de l'État et d'incitation ou de pénalisation des entreprises qui n'avaient pas les quotas de travailleurs reconnus en qualité de travailleurs handicapés dans leur masse salariale. Donc il y a eu aussi des effets. On a changé un peu les mentalités pour un certain nombre de décideurs.
Est-ce que le CV anonyme est une solution ?
J'ai participé au groupe interministériel de réflexion sur la mise en application et la sortie du décret d'application du CV anonyme, donc c'est une question qui m'est chère. J'ai pour ma part expliqué que c'était un bon principe de formation et d'expérimentation au sein d'une entreprise, mais que son application systématique était quelque chose d'extrêmement lourd et qui, au lieu de combattre la discrimination, risquait plutôt de combattre le recrutement lui-même. Donc je pense que dans les moyens actuels de recrutement, en tout cas des cadres, puisque nos cabinets recrutent quasiment exclusivement des cadres et des dirigeants, c'était un outil finalement assez pervers. En tout cas, pas l'outil en lui-même, mais sa diffusion systématique.
Alors, vous êtes vous-même, Sébastien Montpart, le président de cette association. Moi, j'aimerais bien savoir pour quelles raisons vous avez souhaité vous investir vraiment complètement dans cette association.
Non, j'ai d'abord, moi-même, je suis dirigeant d'un cabinet de recrutement pour connaître le métier. Je pratique depuis une vingtaine d'années. Je suis rentré dans l'association un an et demi après sa création, je dirais d'abord par curiosité. Et la remise en question de mes propres stéréotypes à travers les réflexions que nous avions ensemble m'a habité, m'a profondément fait changer mon regard sur un certain nombre de profils. Et j'ai voulu l'habiter encore plus en dirigeant cette association quand il a fallu trouver un successeur à Alain Gavant qui en a été l'initiateur.
Alors, on le sait, le gouvernement s'est emparé de ce problème. Il y a quelques semaines, il y a eu un projet de loi qui est passé.
Il y a eu plusieurs décisions, en tout cas, qui ont été prises. Celle d'une campagne de sensibilisation que l'on a pu voir notamment à Paris.
Oui, effectivement.
On pourra éventuellement revenir sur le message qui, pour ma part, me chagrine un peu.
Ah.
Et également une campagne de testing auprès des entreprises pour les sensibiliser justement à leur performance en matière de non-discrimination.
Alors, pourquoi est-ce que vous dites que cette campagne vous chagrine un peu ?
Alors, on
détaille l'affiche.
Vous avez une affiche qui pose le sujet de la discrimination sur différents critères visibles, puisque bien sûr de l'affichage. En soi, la chose est bonne. Mettre l'acte de discrimination en 4x3, je pense et j'espère que ça heurte pas mal de sensibilité, mais le message est derrière.
C'est une femme.
Plusieurs visuels, oui, mais il y avait une femme de couleur noire.
Voilà,
notamment.
Et de l'autre côté, son visage est blanc et blond.
Oui, absolument. Et on explique ensuite que la personne de race caucasienne est priée de revenir le lendemain, ce qui n'est pas le cas de la personne de race noire. Ouais. Et la conclusion, c'est les compétences d'abord. Mais une fois qu'on a fait les compétences d'abord, on fait quoi ensuite ? Non, c'est pas les compétences d'abord, c'est les compétences tout court. Alors les compétences au sens large, les compétences c'est aussi un comportement, mais ce ne sont que les compétences. Tout ce qui sort du registre des compétences est hors sujet, ou devrait être hors sujet. Donc on a fait un peu un message à côté de la plaque malheureusement.
Cela dit, c'est quand même bien que le gouvernement se soit emparé de ce problème et du coup vraiment en parle enfin.
Absolument.
Donc,
oui, non, mais la démarche est positive.
Est bonne, mais le message n'est pas forcément... Cela dit, on les voit partout, ces affiches. Donc même si elles ne sont pas forcément pertinentes, au moins elles font réfléchir.
C'est le regard d'un technicien sur le sujet de la discrimination. mais j'aurais aimé un discours mieux ciblé.
Alors, donc vous l'avez dit, hein, vous êtes directeur d'un cabinet de recrutement. Concrètement, quel est le rôle d'un cabinet de recrutement ?
Il est l'intermédiaire entre une entreprise et des candidats. Une entreprise qui n'a pas soit le temps, soit les moyens de recruter pour une fonction qui est à définir avec le cabinet. Le cabinet a là un rôle de conseil pour définir le périmètre de la fonction, ses interactions, et aussi pour calibrer le profil qui serait adéquat. Et en ce sens, nous avons un rôle particulièrement important justement pour sensibiliser nos propres clients dans la manière de ne pas intégrer des critères discriminatoires dès l'origine du besoin. Ensuite, une recherche qui peut se faire par annonce, sur Internet, sur les, vous avez évoqué les réseaux sociaux, par approche directe, et par tout acte.
Vous avez forcément public. Des fichiers aussi de oui, personnes que vous connaissez et qui pourraient éventuellement être disponibles.
Absolument. Absolument. Et donc ensuite, nous évaluons les personnes et nous présentons celles que nous estimons le plus, être le plus adéquat.
Vous avez l'impression que les méthodes de recrutement ont évolué ces dernières années ?
Les méthodes de recrutement, en tout cas pour les cadres, le sourcing des cadres se digitalise de plus en plus. Donc des réseaux sociaux comme LinkedIn ou Viadeo devraient être rapidement vos meilleurs amis.
D'accord. Donc il est absolument impensable de ne pas être sur LinkedIn ou Viadeo quand on est cadre, en tout cas.
C'est votre papier d'identité professionnelle.
Ouais. Facebook, moins. Facebook, quand on a plus de 40 ans, ça, c'est moins utile.
Non, c'est pas, non je ne le cite pas parce que Facebook a aussi à l'origine un caractère personnel. Et nous ne sommes pas censés, en tout cas, recruter sur des critères de vie privée.
Nous ne sommes pas censés, d'accord.
Oui. Et donc, nous demandons à nos membres et à nos partenaires de ne pas utiliser des informations qui, même si elles sont rendues publiques par le candidat, leur appartiennent toujours.
Vous restez avec nous, Sébastien Montpart. On continue à parler de la semaine à compétences égales qui va se dérouler à partir du 30 mai dans toute la France. Mais pour l'instant, on fait une courte pause.
Vous écoutez La Vie des Entreprises jusqu'à midi sur Vivre FM.
Dans quelques minutes, vous retrouverez les 3 minutes pour l'emploi, mais pour l'instant, nous sommes de retour dans La Vie des Entreprises, toujours en compagnie de Sébastien Montpart, le président de l'association À Compétences Égales, et vous êtes avec nous à l'occasion de la semaine À Compétences Égales qui va se dérouler à partir du 30 mai dans toute la France. Cette semaine, c'est pas la première semaine, non, c'est pas la première fois, c'est pas la première initiative.
Alors, nous avions commencé il y a 6 ou 7 ans de cela, je crois, par la journée de la diversité, parce que nous étions très parisiens et j'ai été très attaché à ce que l'on diffuse l'accès à nos consultants sur l'ensemble de nos présences en province. Donc aujourd'hui, c'est devenu la semaine de la diversité et nous tournons de ville en ville là où nous avons des cabinets présents.
Alors c'est vous, c'est l'association qui est à l'origine de cette manifestation. C'était quoi les objectifs au départ ?
Les objectifs, ils sont doubles. D'abord, aider les publics qui viennent nous voir et qui viennent nous voir pour avoir du conseil, pour optimiser leur démarche d'emploi et leur performance dans l'acte de l'entretien de recrutement.
Donc, quand vous dites les publics, ça veut dire les recruteurs, c'est ça ?
Non, pardon, les candidats.
Ah, les candidats.
Les candidats.
D'accord. Comment se présenter ?
Comment se présenter, comment tenir un discours, comment bien répondre à des questions, comment aussi savoir recadrer des questions qui n'auraient pas lieu d'être ou d'être posées. Les publics sont des publics qui s'estiment potentiellement discriminés. Quand nous les voyons, nous ne savons pas forcément pourquoi. Éventuellement, elles viennent nous en parler. Et oui, il peut y avoir des questions inconvenantes et il faut savoir rester sur le domaine des compétences. Et c'est malheureusement aussi le rôle du candidat, lorsque le recruteur dérape, de le ramener au bon sens.
Cela dit, ça peut être effectivement très compliqué pour une personne qui s'est sentie discriminée lors d'un entretien d'embauche. On peut perdre confiance en soi.
Bien sûr.
Et du coup, être moins performant lors d'un deuxième entretien, parce que du coup, on a tellement peur de faire un faux pas. Que...
C'est pour ça que notre démarche, même si elle reste une goutte d'eau, est une démarche de démystification de l'acte d'entretien et en espérant un retour de confiance de la part des candidats. Il n'y a pas d'enjeu lié à un poste, puisque nous sommes là sur des candidats volontaires et des consultants qui se rendent disponibles volontairement, mais sans forcément de poste. Après, on peut néanmoins créer des belles rencontres, et ça peut éventuellement déboucher sur des opportunités. Mais à ce moment-là, dans le cadre de la semaine diversité, on vient passer un exercice, et avec un consultant qui sera bienveillant mais exigeant et qui lui fera un retour sur la performance de la personne et qui lui donnera, je l'espère, des bons conseils et un effet miroir sur justement sa posture, la qualité de son discours et de son projet.
Cela dit, c'est comment vous convainquez une personne à se dire, bah voilà, moi j'ai été discriminée parce que, à cause de ma couleur de peau, à cause de mon âge, à cause de mon surpoids, à cause de mon nom, à cause oui. de l'endroit où j'habite. Comment vous faites ? Parce qu'on ne peut pas changer tout ça. On peut déménager, mais on ne peut pas changer sa couleur de peau, on ne peut pas changer son nom.
C'est bien pour ça qu'on appelle ça de la discrimination, c'est oui. que vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Et que de toute façon, il n'y a pas de hiérarchie, il n'est pas censé y avoir de hiérarchie sur ces sujets-là. Malheureusement, c'est un travail qui est plus long qu'un seul entretien.
C'est ça.
Mais c'est aussi montrer qu'il y a des recruteurs qui se préoccupent du sujet. Et j'invite toutes les personnes qui seraient en futur candidat à faire le pari qu'ils vont tomber sur un bon recruteur. Avoir confiance en soi, c'est aussi avoir confiance en l'autre. Et il peut aussi y avoir des belles rencontres dans le recrutement.
Alors, vous l'avez dit, ça c'est une bonne nouvelle. Vous l'avez dit, c'est pas la première année. Donc, est-ce que vous pouvez faire un petit bilan sur les années précédentes ? Qu'est-ce que vous avez pu en tirer ? Est-ce qu'il y a eu des véritables changements dans les mentalités ?
On a des retours chaque année là depuis qu'on a instauré la semaine de la diversité, c'est à peu près 400 candidats qui sont reçus à travers les différentes villes de France, avec nos consultants qui se mobilisent gracieusement. C'est des retours souvent très positifs en disant je ne pensais pas que des recruteurs pouvaient m'aider comme cela. C'est aussi.
Ils ne sont pas tous des méchants.
Mais justement, on n'est pas censé être méchant, on ne juge pas, on évalue. Enfin, il faut rester dans cette démarche d'équité et d'une posture d'égal à égal et d'un échange et ne jamais oublier, lorsque l'on est candidat, que le recruteur aussi a besoin de recruter.
Alors, vous restez avec nous, Sébastien Bompard. On continue à parler de la semaine pour la diversité juste après. Mais pour l'instant, notre coach vient d'arriver dans les studios. On lui laisse la parole, il répond à une question sur l'emploi d'un de nos auditeurs. À tout de suite. Alizée de Suresnes est responsable de la mission handicap du Mutuel. Elle souhaiterait que son entreprise s'implique davantage dans le domaine des achats vers le secteur protégé et adapté. Et elle est en conflit avec le responsable des achats qui craint que les prestations soient moins bien faites, que les délais soient plus longs et même que le devis soit plus cher. Philippe Béranger, vous êtes le responsable de la communication du CCAH. Les entreprises sont-elles assez informées des avantages de se tourner vers ce secteur ?
Oui, je crois que les comportements des entreprises ont évolué vis-à-vis des entreprises du secteur protégé. En mars, par exemple, le premier salon handicap et achat responsable qui vient de se dérouler à Paris a connu un grand succès avec plus de 1500 visiteurs. Et je crois qu'il faut qu'Alizée propose à son directeur des achats de visiter ce type de salon pour le rassurer. Il pourra rencontrer des professionnels qui lui présenteront une offre de prestation, de services, de conciergerie, recyclage de déchets, gestion administrative, etc., etc. Beaucoup de choses sont maintenant disponibles. Il y a aussi une réelle professionnalisation du secteur qui se diversifie donc de plus en plus et qui savent assurer leurs délais et qui fonctionnent vraiment comme des entreprises ordinaires. Quant aux prestations, elles ne sont pas plus chères que les mêmes prestations auprès d'autres fournisseurs. C'est ce que révèle le dernier baromètre Humanise aux ELESAT.
Alors, ce qui est important, c'est effectivement ce que vous dites, c'est que le secteur bouge, parce que il y avait une image un petit peu vieillotte du secteur protégé et adapté. Là, les responsables de ces entreprises sont en train vraiment de dépoussiérer le secteur et d'innover. Donc ça, c'est important de le dire aussi. C'est-à-dire qu'on peut trouver pratiquement toutes les prestations dont on a besoin dans le secteur adapté et protégé.
Oui, c'est vrai qu'il y a une rénovation un petit peu de ce secteur.
Une grande diversité de
produits, de services qui sont proposés. Et ça, c'est vraiment plutôt récent. Et c'est très intéressant de le voir de cette façon-là. Et ce qu'il faut dire aussi, peut-être si on revient au cas que vous présentiez, c'est que ce qui peut être utile aussi pour un responsable des achats un petit peu craintif, c'est de lui proposer des formations que, par exemple, dispense le CCH, qui sont des formations qui permettent qui sont spécialement faites pour les directeurs des achats ou des services achats et qui permettent de bien démontrer l'intérêt pour l'entreprise de faire appel à ce secteur protégé. Alors, pour des raisons économiques, c'est certain, puisque c'est assez important, puis aussi pour découvrir donc, l'ensemble des prestations qui sont proposées par les ESAT.
Monsieur Bompard, on peut faire un parallèle effectivement entre le fait qu'une entreprise s'adresse au travail du secteur protégé et adapté et un recruteur embauche une personne en situation de handicap. On s'adresse on recherche la compétence.
Une démarche, c'est d'abord une démarche positive, mais elle ne doit pas être faite juste pour l'éthique. Que ce soit dans le recrutement, on est censé rester sur la compétence. De la même manière, dans une prestation que l'on achète, elle doit être jugée sur sa performance.
Parce que effectivement, quand un recruteur a deux CV en face de lui, il a le CV d'une personne totalement valide et il a le CV à côté d'une personne qui a noté RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Est-ce qu'il n'est pas normal, enfin humain, de se dire bon, allez, je vais prendre la personne valide parce que ça va être moins compliqué, ça va aller plus vite, ça va être quelqu'un qui va être opérationnel tout de suite.
Déjà, on a un fâcheux raccourci, et les pictogrammes le montrent, quand on pense handicap, on pense chaise roulante et mobilité réduite.
Oui, parce que quand on met RQTH sur son CV, on ne met pas forcément de quelle pathologie on souffre.
Et je rappelle que ce n'est pas au recruteur, qu'il soit en entreprise ou en cabinet, à juger de la capacité de la personne à remplir le poste en fonction de son handicap, et ce n'est pas à nous de nous suppléer au rôle de la médecine du travail. Donc le handicap en tant que tel n'a même pas pour moi à être abordé, sauf si éventuellement le candidat le souhaite. Ça a pu m'arriver d'ailleurs récemment avec une personne qui souhaitait expliciter éventuellement les mesures d'adaptation qu'elle avait pour bien remplir sa mission en toute transparence.
Voilà, parce que c'est toujours mieux d'être transparent plutôt qu'au bout de quelques semaines ou de quelques mois dire « Ah ben, en fait, le poste de travail ne me convient pas, donc il faudrait l'aménager ». Bon, c'est plus confortable pour le recruteur de savoir un petit peu de quels aménagements la personne va avoir besoin.
Oui, mais je voudrais déjà rappeler aux entreprises, enfin à tous les auditeurs qui nous écoutent, que la plupart des handicaps ne sont non visibles.
Et non, 80%.
Et non pas d'incidence sur la mission exécutée. Donc, se limiter à un RQTH qui ne favoriserait pas l'accès à un entretien me peine beaucoup.
Merci beaucoup Sébastien Montpart. On continue à parler de la semaine à compétences égales qui va avoir lieu, je vous rappelle, à partir du 30 mai. Mais pour l'instant, on fait une petite pause.
Jusqu'à midi sur Vivre FM,
la vie des entreprises, Alice Farcoa.
Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous êtes bien sur Vivre FM dans la vie des entreprises en compagnie ce matin de Sébastien Montpart, président de l'association À Compétences Égales, à l'occasion de la semaine À Compétences Égales qui va avoir lieu à partir du 30 mai dans toute la France. Alors, l'association À Compétences Égales propose également des formations dans les entreprises, c'est ça, c'est essentiel, c'est votre boulot essentiel.
Alors, ce n'est pas notre boulot essentiel, mais c'est un bon moyen néanmoins de financer l'association, puisqu'elle ne vit que de sa propre production et des cotisations de ses membres. Nous avons d'abord l'obligation, d'ailleurs je le rappelle, de former l'intégralité de nos consultants. C'est un prérequis pour rejoindre l'association, donc aux techniques de recrutement sans discrimination. Et nous sommes fort heureusement rendus compte que les entreprises étaient demandeuses de notre savoir et nous ont demandé de pénétrer leurs murs et leurs programmes de formation. Donc on a monté une formation adaptée aux entreprises et depuis même on est allé plus loin. Puisque finalement la discrimination est l'affaire de tous, pourquoi rester entre cabinets ? Et donc nous avons décidé cette année même d'ouvrir notre association à l'ensemble des entreprises qui voulaient bien nous rejoindre.
Alors il y a quand même un décalage, Monsieur Bompard, entre ce que les entreprises disent, c'est-à-dire la plupart du temps quand on interroge des recruteurs, nous disent mais bien sûr, non, il n'y a aucune discrimination et tout ça. Et quand on interroge en revanche des personnes qui qui se sont sentis discriminés, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage ?
D'abord parce qu'il est amplifié par la discrimination d'une part et le sentiment de discrimination d'autre part. La discrimination, elle existe et il faut la combattre, et la combattre fermement. Il y a ensuite beaucoup de personnes qui sont reçues, qui s'estiment discriminées à tort. La faute incombe à qui ? Toujours au recruteur. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas pris le temps d'expliquer pourquoi son évaluation était négative. Et donc, nous avons depuis l'année dernière monté, pour notre part, un plan transparence et nous essayons de sensibiliser tous les recruteurs à faire un débrief à chaud, les yeux dans les yeux, à tous les candidats qui sont reçus et à leur dire pourquoi éventuellement ils ne poursuivraient pas. De toute façon, c'est leur rôle de conseil.
Oui, parce que comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on n'a pas été recruté parce que on est en surpoids, on s'appelle Mohamed plutôt que Eric, ou on habite dans un tel quartier, ou parce qu'on a noté RQTH sur son CV, plutôt que parce qu'on n'a pas les compétences nécessaires pour le poste? Comment on peut le savoir, ça ?
Je crois que le candidat a le droit de poser la question en fin d'entretien en disant ce que vous avez pensé et que justement... le recruteur qui ne connaîtrait pas forcément tout le cadre de loi et les 20 critères de discrimination.
20 quand même. Hein.
Oui, mais justement, je dis, si vous n'êtes pas capable de reconnaître, de connaître les 20, dites-vous que si vous êtes capable de dire les yeux dans les yeux à quelqu'un pourquoi vous ne le prenez pas, il y a des chances que vous soyez dans le bon chemin.
Donc il faut que le candidat, ça c'est ça que vous dites aux candidats qui viennent vous voir, qui vont venir vous voir à partir du 30 mai, n'hésitez pas à poser cette question, vous avez le droit d'avoir une réponse ferme à la fin de l'entretien.
Vous avez le droit et ça ne peut qu'enrichir le recruteur lui-même.
Mais ça peut être compliqué aussi pour un recruteur.
C'est à nous aussi de savoir bien choisir ces mots pour que une réponse négative ne soit pas prise comme une sanction, mais peut-être comme un nouveau sujet de réflexion pour que la personne puisse s'améliorer. Donc il faut savoir faire passer le message, mais le faire passer aussi avec tact et savoir doser la capacité de réception de la personne en face. Lorsque vous avez eu quelqu'un pendant une heure et demie, deux heures en face de vous, vous commencez à connaître un petit peu quand même la personne.
Alors, est-ce que, parce que vous avez dit qu'il y avait 20 critères de discrimination, est-ce que le fait d'avoir été éloigné de l'emploi pendant un certain temps, quelquefois on a un trou dans un CV qui a duré un an, deux ans, à cause d'une maladie, à cause d'un burn-out qui a créé une dépression, etc. Est-ce que ça peut être gênant pour un recruteur ?
En tout cas, c'est gênant pour un candidat, puisque un chercheur belge dont je n'ai plus le nom nous avait fait l'exposé effectivement de la complexité à retrouver un emploi après une phase d'inactivité. Alors, le chômage n'est pas aujourd'hui considéré comme un critère discriminatoire. Néanmoins, il joue contre l'employabilité d'un profil. Donc, c'est une vraie question, savoir reprendre confiance en quelqu'un qui a eu une inactivité. Cela dit, les trajectoires sont aujourd'hui quand même assez difficiles et le droit à l'erreur existe. Malheureusement, il n'est pas répandu partout, il n'est pas systématique. Et c'est vrai que la problématique du chômage est une vraie problématique. Quand vous commencez à avoir une période longue, votre interlocuteur peut commencer à douter, malheureusement. À vous de rester connecté, de rester en société. Le risque du chômage aussi, c'est l'isolement. Il faut savoir jouer de ses réseaux, il faut savoir solliciter les personnes avec qui vous avez travaillé au préalable. C'est fondamental. Et il y a beaucoup d'associations d'accompagnement des candidats qui vont en ce sens.
Mais alors, vous parlez de chômage, effectivement, pour les personnes qui ont été obligées de se séparer de leur emploi. Mais moi, je pensais surtout aux personnes qui ont été malades ou qui ont eu un accident ou qui ont eu un burn-out et du coup, qui se sont retrouvées en dépression. Est-ce que ça peut être compliqué pour un recruteur, quand il le sait, s'il pose la question, de se dire, bah, s'il a eu un cancer, il peut peut-être récidiver. S'il a fait un burn-out, il peut peut-être recommencer. Je ne me lance pas là-dedans.
Je vais juste commencer par quelque chose de fondamental, mais vous n'avez pas à poser la question.
Vous n'avez pas à dire, je vois que ça fait deux ans que vous n'avez pas travaillé. Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne peut pas le dire, ça ?
Si, mais vous ne pouvez pas demander précisément les raisons de l'inactivité, surtout si la personne rentre ensuite sur une sphère privée ou sur son état de santé, qui est, lui, bien un critère discriminatoire.
D'accord. Donc, si on a eu un cancer et qu'on a été obligé de s'arrêter de travailler pendant deux ans, on n'est pas obligé de le dire face à son recruteur. On dit non, je n'ai pas travaillé depuis deux ans, effectivement, mais je me sens... C'est compliqué.
C'est difficile. C'est difficile de ne pas répondre à la question quand elle est posée. C'est pour ça que nous, notre association, on essaye déjà en amont à ce que la question ne soit pas posée.
D'accord, mais vous comprenez que ça peut démanger aussi un recruteur de se dire, bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé quand même ? Ça fait depuis 2004, il a pas bossé. Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Démanger, oui, et avoir envie d'être plus professionnel aussi. On peut faire ce pari-là.
Ah, d'accord. Bon, bah, écoutez, dans un monde parfait, on va avoir des recruteurs super gentils et super bienveillants.
Mais je suis d'accord avec vous qu'il y reste du boulot. C'est pour ça que l'association existe et qu'elle est aussi dynamique.
Alors, l'association existe, vous l'avez dit, depuis 10 ans. La semaine à compétences égales existe depuis 7 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Elle va se dérouler à partir du 30 mai dans toute la France, parce que vous l'avez souhaité, hein, c'est pas seulement parisien. Hein.
Alors, elle va faire étape à Lille, Bordeaux, Strasbourg, Rennes, Nantes, Lyon et Paris.
Alors concrètement, comment ça se passe ?
Concrètement, nous demandons aux personnes de s'inscrire sur notre site internet à compétencesegales.com, à compétencesegales au singulier, s'il vous plaît.
Alors, les personnes, c'est-à-dire les personnes qui cherchent un conseil et qui ont envie de passer un exercice
avec nous, une simulation d'entretien qui dure environ une heure. Donc, on prend le temps de bien recevoir les personnes et de leur faire un retour, un effet miroir. et à elles de venir aussi en profiter pour nous poser toutes les questions qu'elles pourraient peut-être pas poser dans un cadre avec un enjeu et une mission ou un poste derrière.
Donc il faut s'inscrire, on vient pas comme ça les mains dans les poches.
Non, et on vient d'ailleurs avec un projet, tant qu'à faire.
Avec un projet, avec un CV.
Avec un CV, s'il vous plaît, impératif. et puis vous serez accueillis par nos équipes et reçus par un consultant dont normalement la compétence porte sur le métier et le profil de la personne.
Donc ça concerne tous les métiers, c'est-à-dire que qu'on cherche, quel que soit l'emploi qu'on cherche, quel que soit...
Tout secteur pour des profils cadres ou éventuellement agents de maîtrise.
D'accord. Donc, vous l'avez dit, dans toute la France, un petit focus sur ce qui va se passer à Paris, ça va être où ?
Ça va être dans le 7e arrondissement. Il y a un musée dont le nom m'échappe.
Vous n'avez pas l'adresse. Mais c'est vrai que vous n'aviez pas préparé cette question. C'est toutes mes excuses.
Mais vous avez. Non, cela dit, j'ai quand même. Je vous ai parlé de deux lieux. Il y a un deuxième lieu. Nous recevons à la mairie du 7e arrondissement pour des formations, justement, à la recherche d'emploi. Et nous avons deux sessions à 10h et 15h. Voilà. Et je tiens à remercier la mairie du 7e de nous ouvrir leurs portes à cet effet.
Alors quand vous dites nous, c'est-à-dire des cabinets de recrutement, des personnes qui sont vraiment, qui font ça toute la journée, quoi.
Oui, et des formateurs qui sont des vrais formateurs toute la journée et toute la semaine.
Et qui sont habitués à toutes ces questions que des personnes en recherche d'emploi peuvent se poser, c'est-à-dire comment j'explique ça, comment je parle de ça.
Comment bâtir une stratégie de recherche, quels outils utiliser et comment rester sociabilisé dans cette démarche qui peut éventuellement prendre du temps.
Et comment reprendre, vous l'avez dit, prendre ou reprendre confiance en soi ?
Malheureusement, c'est un peu dur, mais c'est vrai que quand on fait des formations auprès de candidats en recherche d'emploi, le premier sujet, c'est la posture. Et si vous n'avez pas confiance en vous, qui va avoir confiance en vous ? C'est très dur, ça demande un travail personnel aussi en amont, mais vous n'êtes pas là pour venir soulager vos rancœurs précédentes, mais plutôt pour faire le pari qu'on va y arriver lors de la prochaine étape.
Et se faire confiance à soi, et aussi faire confiance aux recruteurs qu'on a en face de soi, c'est-à-dire ne pas se dire de toute façon ça va pas marcher.
Malheureusement, quand on part dans cette psychologie-là, c'est sûr que ça ne va pas marcher.
Donc, le mot de la fin, un mot positif ?
Le monde du recrutement bouge, les entreprises bougent. On n'est pas encore dans une étape parfaite, mais on est quand même plusieurs à y réfléchir.
Merci beaucoup Sébastien Mompard d'être venu nous voir ce matin.
Merci à vous.
Merci à Dominique Lemaitre d'avoir réalisé cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez la réécouter, la podcaster et en retrouver toutes les informations sur notre site internet vivrefm.com. Dans quelques minutes les infos, puis la suite de vos programmes. À très vite pour un nouveau numéro de La Vie des Entreprises.